Bonjour et merci de vous savoir très nombreux à l'écoute de Patara, le débat politique du premier média centrafricain Radio Ndeke Luka. Comme annoncé, nous parlons aujourd'hui de la situation socio-économique de la République centrafricaine. La tension économique commence à se faire sentir dans le pays après la suspension par les partenaires de l'appui budgétaire. Alors que la Banque mondiale avait exigé du gouvernement des explications autour des dépenses dans le secteur de la sécurité pour pouvoir décaisser son appui budgétaire, bien sûr, et une exigence similaire formulée par le Fonds monétaire international. Devant cette contrainte de trésorerie, le président Touadéra a redynamisé son gouvernement pour y faire face. Chacun des ministres a vu sa feuille de route modifiée. Question, face à la dégradation du tissu socio-économique, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, peut-il tenir face aux préoccupations de sa population? Est-ce que la mobilisation des ressources domestiques annoncée par le chef de l'État peut suffire pour exécuter les grands chantiers du pays, tels les routes, les écoles et l'agriculture? La tribune Patara d'aujourd'hui fait place à deux personnalités. L'une est le ministre secrétaire général du gouvernement, Maxime Balalou. Monsieur, bonjour et bienvenue pour la première fois dans le débat politique de Radio Ndeke Luka.
Bonjour.
Martin Zigele, président du mouvement de libération du peuple centrafricain MLPC et porte-parole du bloc républicain pour la défense de la constitution BRDC. Monsieur Zigele, bonjour.
Bonjour monsieur Armando, bonjour monsieur le ministre.
Bonjour.
Bonjour à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs.
Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Le débat, c'est dans courte pause.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Ouvrons cette discussion démocratique avec vous, M. Balalou. Dans quel état d'esprit avez-vous accepté de débattre pour la première fois sur notre plateau et avec M. Zigele?
État d'esprit, c'est un plaisir pour moi de débattre avec le président Zigele. Vous savez, j'adore la contradiction. On est dans un pays où il faut se parler. On doit chercher les voies et les moyens ensemble pour reconstruire un pays qui a traversé des moments très difficiles. Et je pense pour moi, débattre avec n'importe quel compatriote, c'est toujours un plaisir. Voilà.
Monsieur Zigele, vous avez l'habitude de participer au débat radiophonique qu'organise Radio Ndeke Luka. Pour ce sujet, qu'est-ce qui vous a motivé d'accepter notre invitation?
D'abord, par respect pour nos compatriotes qui se mobilisent toujours pour nous écouter. Et puis, par respect également pour mon jeune frère, le ministre Balalou. Vous avez dit que c'est la première fois que je discute avec lui, mais c'est peut-être la première fois aussi que je discute avec un membre du gouvernement dans votre émission. Parce que les émissions précédentes, c'était avec Gwadika, qui n'est pas membre du gouvernement. Il est conseiller du chef de l'État, mais il n'est pas membre du gouvernement. Donc, c'est un plaisir de discuter avec un membre du gouvernement, c'est-à-dire quelqu'un qui est effectivement membre de l'exécutif et qui, je crois, pourra apporter des explications sur un certain nombre de choses que nous allons évoquer aujourd'hui. Donc c'est un plaisir.
Voilà, l'actualité oblige. Un groupe de jeunes dirigé par Didacien Kossimati et Hippolyte Ngaté ont tenu un sitting devant la Cour constitutionnelle pour exiger la démission de la présidente de la petite cour et de tous les juges. Au nom de votre organisation, M. Zigele, BRDC, vous avez signé un communiqué de presse pour qualifier cet acte de dérive autocratique, antidémocratique et antirépublicaine du pouvoir. En quoi le pouvoir a à voir dans cette manifestation de jeunes qui n'est qu'une expression populaire?
Non, je voudrais d'abord réitérer de vive voix ma ferme condamnation de ce type de pratique. Nous avons l'impression qu'il y a une voyoucratie qui prend la place de l'action politique. Depuis que je suis militant dans un parti, depuis l'âge de 22 ans, je sais que quand il y a un débat politique dans un pays, il y a un sujet politique à débattre, des partis politiques, des associations politiques se parlent, portent le projet, discutent idée contre idée. Et deuxième élément, dans la culture du centrafricain, de l'homme noir, on n'insulte pas. Dans toutes nos familles, nos pères, nos mamans, nos oncles, nos tantes nous ont dit « vous n'insultez pas ». Et vous n'insultez surtout pas quelqu'un dont l'âge est supérieur au vôtre, et qui a l'âge de vos pères. Parce qu'en Sango, on dit « sous babatimola ». Et que des jeunes aillent sur une voie publique, devant la Cour constitutionnelle, proférer des injures contre la présidente de la Cour constitutionnelle, qui est une dame, contre les juges, les menacer, leur demander de démissionner, je trouve, et je le répète, que nous sommes en train de glisser vers un populisme violent. Et malheureusement, c'est la répétition du même scénario qui a été mis en place pour le départ d'un de ses collègues du gouvernement qu'il connaît bien, Charles Ramel Douban. Ça a commencé de la même manière. Des invectives sur Internet, sur les réseaux sociaux, puis des manifestations. Et à bout, il a jeté l'éponge, il est parti. Même scénario contre la MINUSCA. Maintenant, ça s'est calmé. Et maintenant, c'est contre la présidente de la Cour constitutionnelle, contre la Cour constitutionnelle. Demain, ce sera contre qui, je ne sais pas. Mais il faut que nous sachions raison garder, revenir à des pratiques politiques saines, et se respecter, se respecter. Parce que si on ne se respecte pas, on redevient à l'état animal. Et personne n'a envie de redevenir ou de revenir à l'état animal. Nous voulons que notre démocratie progresse. Nous voulons que la République progresse. Nous voulons que les valeurs républicaines progressent. Nous savons que nous sommes 5 millions, nous ne pouvons pas avoir les mêmes opinions. C'est tout à fait normal. Même dans une famille, on n'a pas tous les mêmes opinions. Mais il faut qu'on s'accepte dans cette diversité d'opinions. Et les institutions que les Centrafricains, que le peuple centrafricain a mis en place, si nous ne respectons pas ce que nous-mêmes nous avons mis en place, qui va nous respecter? Voilà ce que je voudrais dire par rapport à cette situation. Et ces manifestations continuent parce que ce vendredi encore, il y a eu des mouvements devant la Cour constitutionnelle et il semble que les manifestants ont dit qu'ils vont le faire pendant 5 jours. Ça veut dire que les forces de sécurité sont informées de cette situation et savent que, et les pouvoirs politiques, c'est qu'il y a des manifestations contre les institutions et à ma connaissance, c'est la MINUSCA seule qui est intervenue hier pour les disperser. C'est pour ça que je parle d'une dérive autocratique, antidémocratique, parce qu'en démocratie, on n'insulte pas. Et troisièmement, c'est une dérive autocratique parce qu'on a l'impression que le pouvoir fait tout pour parler seul, pour parler seul. Comme aujourd'hui à l'Assemblée, vous avez remarqué, personne ne parle plus.
De l'opposition ?
Non, ne parle plus parce qu'il y a une conception fasciste du pouvoir, qui consiste à considérer le contradicteur comme un ennemi à abattre, comme quelqu'un qu'il faut insulter, traîner dans la boue, invectiver à longueur de journée. Et ça se passe à la radio d'État et à la télévision d'État. Et c'est une dérive malheureuse, dangereuse, que je condamne fermement.
On écoute, M. Badalou, ces jeunes qui se réclament soutien de votre gouvernement ont manifesté jeudi devant la Cour constitutionnelle. Ils ont estimé que la présidente de la Cour est proche de l'opposition. Est-ce que le pouvoir était informé avant cette manifestation?
Écoutez, je dois relever un certain nombre de choses. Il ne faut pas faire de l'amalgame. On croit pouvoir chercher un bouc émissaire. L'exercice de la démocratie, vous ne pouvez pas empêcher à des individus, quels qu'ils soient, de pouvoir se prononcer, même si dans un contexte où on doit condamner la manière à laquelle certains se comportent, pour chercher toujours à montrer une face, à montrer à l'opinion. Et j'ai écouté tout à l'heure le président Zeghile parler de pouvoir autocratique. Il ne faut pas prononcer des mots qui, pour moi, ne sont pas à leur place. Et surtout, quand on a exercé le pouvoir, quand on sait les contraintes du pouvoir, quand on a exercé le pouvoir, on sait ce que c'est. Et je pense que nous devrions, avec beaucoup d'apaisement, quand on veut que ce pays se reconstruise, quand on veut que ce pays soit réconcilié, je pense qu'il y a une démarche politique qui nous oblige à créer les meilleures conditions, les uns les autres, à chercher à mutualiser nos efforts pour créer vraiment cette entente cordiale. Je le dis encore devant le président Zeghile, il est de l'opposition. Il était hier avec nous, il était de la majorité, et on a travaillé ensemble. Maintenant, il a traversé la route, il a ses raisons. Qu'il engage, ça ne nous engage pas du tout. Il parle, il est l'opposition, c'est normal qu'il parle. Nous, on gouverne. Et ce que je voulais dire ici, c'est que je ne connais pas la nature de ce mouvement-là. Nous, au niveau du gouvernement, il faut que les choses soient claires. Et je tiens aussi à vous dire que nous devons respecter nos institutions. C'est tout à fait normal. Nous devons les respecter. Nous devons respecter tout, mais nos contradicteurs, nous les respectons. Il y a, dans ce pays, j'ai constaté, il y a toute une nouvelle culture politique qui s'installe. Cette culture politique qui est de développer une sorte de haine, de disséminer par des pratiques. On croit pouvoir, dans le cas d'espèce, penser que c'est le gouvernement derrière, penser qu'on empêche aux gens de parler. Hein. Je suis surpris d'entendre, par exemple, on me fait croire qu'à la Semaine nationale, on ne parle plus parce qu'on empêche les gens de parler. Moi, je participe à la conférence des présidents.
Je n'ai pas dit qu'on empêche les gens de parler. J'ai dit les députés, certains députés estiment inutile.
Non, permettez-moi, c'est grave ce que vous avez dit parce que vous êtes député et vous avez la possibilité de dire ce que vous pensez, de critiquer, c'est votre droit, mais vous ne pouvez pas dire qu'on empêche. Nous sommes dans une culture, et je le dis, je le regrette, dans notre pays, cette manière de penser, cette manière de conduire l'opinion crée des difficultés pour que les Centrafricains puissent travailler ensemble. Et je vous le dis encore une fois, même dans les pays les plus développés, vous avez des gens qui ont une manière de s'exprimer. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord, ou je partage un peu le point de vue de M. Zeguilé tout à l'heure. On ne peut pas insulter. J'ai du respect pour mes compatriotes, mais je ne partage pas le point de vue. Mais ce qui me tient, c'est moi, c'est la République, c'est mon pays, c'est le peuple centrafricain. Et nous travaillons chacun dans sa sphère pour trouver des solutions afin de régler le problème des centrafricains. Ne cherchons pas l'amalgame dans le contexte actuel pour indirectement voir le gouvernement derrière, c'est ce qui est dit tout à l'heure, mais moi je tiens
mais lorsque ces jeunes qui sortent pour manifester devant la Cour constitutionnelle, comme vous l'avez relevé, hein, vous ne connaissez pas la nature.
Je vais vous le dire encore.
Mais ces jeunes, est-ce que le pouvoir ne peut pas, par exemple, utiliser...
Attendez, j'ai lu tout à l'heure sur les réseaux sociaux des jeunes qui ont réagi pour condamner l'acte de ces jeunes-là. Est-ce que vous voyez qu'en plus position, j'ai dit non, ce n'est pas normal. Mais moi, en tant que républicain, on ne peut pas empêcher aux gens, n'est-ce pas, de manifester. Ça, c'est normal. Ça, c'est leur droit. On n'interdit pas. Mais on ne peut pas développer une culture de violence, hein, où, comme l'a dit tout à l'heure le président Zeguilé, où on va insulter. Non, je ne partage pas ça, parce que je n'ai pas écouté, hein, s'il vous plaît. Mais moi, en tant que gouvernement, ce que je tiens à relever ici, à mon contradicteur, c'est que créons les meilleures conditions pour plus d'apaisement dans ce pays, si on veut faire de la politique, si on veut servir ce pays.
Monsieur Zeguilé, vous voulez réagir quelques
Non, secondes. Le ministre, au fond, dit la même chose que moi. Je retiens de ce qu'il dit qu'il n'approuve pas l'insulte, il n'approuve pas l'injure en politique. Et c'est ce que je viens de dire. Nous n'approuvons pas l'insulte. Nous ne faisons pas de l'amalgame. Je suis très clair. Il y a des groupes de personnes qui se réclament d'associations, de soutien au président Touadéra qui se comportent comme des voyous. La preuve, ils ont commencé avec le ministre Doumbane, que M. Badalou a eu comme collègue au gouvernement. Il a fini par démissionner. Ils ont fait la même chose contre la MINUSCA. Maintenant, ils recommencent contre Mme Darlan et M. Ouaboué. Je viens de voir sur Internet, ils ont mis Mme Darlan, M. Ouaboué, vous êtes des traîtres, vous devez démissionner. Ils ont trahi qui ? Ils ont trahi qui ?
Monsieur...
Ils ont trahi qui ? Parce que...
Monsieur
écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Je ne discute jamais politique avec un ministre en fonction. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un ministre, il sert la République, c'est un exécutant. Vous n'êtes pas, vous, M. Badalou, en tant que ministre, vous ne pouvez pas me dire que j'ai raison, parce que vous avez un poste, vous avez une fonction, vous ne pouvez pas venir dire que ce que les jeunes font n'est pas bien. Mais je comprends à travers les termes que vous dites, vous n'acceptez pas l'injure. Je dis la même chose. Je ne peux pas accepter que même un parti politique de l'opposition aille insulter M. Badalou. Je ne l'accepterai pas. Même si c'était le MLPC, je ne l'accepterai pas. Si le MLPC insultait le chef de l'État ou des autorités, je ne l'accepterai pas. Parce que l'injure, ce n'est pas une marque d'intelligence. On est d'accord là-dessus. Et on ne peut pas faire un pays en s'insultant. Vous, M. Badalou, vous êtes un cadre qui a fait des grandes études. Vous avez fait l'école de finances à Libreville. Vous avez été pendant longtemps auprès du Premier ministre, conseiller spécial, puis maintenant ministre, et peut-être demain Premier ministre. Mais est-ce que vous avez déjà vu dans ce pays, avant 2018-2019, vous avez déjà vu des jeunes se regrouper, aller insulter des membres du gouvernement en exercice ou des responsables d'institutions de la République? On n'a jamais vu ça. C'est une dérive dictatoriale, autocratique, antidémocratique qu'il faut condamner. Je le dis pour vous, je le dis pour moi. Maintenant, par rapport à l'Assemblée...
Dictatoriale par rapport à qui?
Mais quand des fonctionnaires... Vous qui êtes ministre, vous acceptez que des gens aillent manifester pour insulter des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires d'autorité, pour leur dire que vous êtes des traîtres, qu'il faut que vous démissionnez, etc. Non, force doit rester à la loi. On est d'accord. Si nous sommes en République, c'est-à-dire la force de la République, c'est la loi. Et ce comportement-là, c'est un comportement nocif. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend aux jeunes à faire de la politique. On n'apprend pas à quelqu'un à se comporter comme un chien de garde pour faire de la politique. La politique, c'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées. C'est tout. Monsieur Zeguilé, vous avez dit telle chose, je veux vous démontrer que vous avez tort. Monsieur Badalou, vous avez dit telle chose, je veux vous démontrer que vous avez tort. Après, on se salue.
Finissez rapidement.
Je vais travailler.
Vous voulez relever le point de l'Assemblée tout à l'heure.
Et par rapport à l'Assemblée, je n'ai jamais dit, parce que le règlement intérieur ne le permet pas, qu'on a interdit aux députés de parler. Mais il y a des députés qui trouvent inutile de parler. Monsieur Badalou, moi, je sais que vous êtes quelqu'un de très informé, de très intelligent. Quand vous étiez plus jeune que ça, vous savez que la législature a commencé, c'est-à-dire les élections démocratiques, l'Assemblée nationale a commencé depuis le président Kolingba. Sous le président Kolingba, vous avez vu le débat qu'il y avait à l'Assemblée nationale en tant que parti unique. Après le président Kolingba, c'était le président Patassé. Vous avez vu le débat qu'il y avait
à l'Assemblée nationale, alors que le MLPC était largement majoritaire, le MLPC a même voté des motions de censure contre son propre Premier ministre en exercice, pour le faire tomber. S'allier à l'opposition pour voter une motion de censure contre son propre Premier ministre. Le débat était vif. Sous le président Bozizé, quoique le KLK ait été hégémonique à l'Assemblée, vous avez vu le débat qu'il y avait à l'Assemblée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont compris que à l'Assemblée nationale, on ne discute plus les lois dans l'intérêt du peuple centrafricain. On répond à des consignes politiques. Donc, on confond la majorité et la raison. La majorité et la raison, ce n'est pas la même chose. Vous êtes un sachant, un savant. Vous savez que pendant des siècles, les gens ont dit que la Terre était plate. Et quelqu'un même s'est fait tuer, Galilée, Galilée, parce qu'un jour, il a dit que la Terre était ronde. Mais maintenant, tout le monde sait que la Terre est ronde. Et donc, les gens confondent la majorité et la raison. Donc, il n'y a plus de débat. Et quand il n'y a plus de débat, les gens qui ne veulent pas perdre leur temps ne disent rien. Je n'ai pas dit que quelqu'un a interdit aux députés de parler.
Vous avez 4 minutes de plus, M. Ziguele, sur M. Balalou.
Oui.
Prenez la parole, 4 minutes pour compléter et on évolue.
Je vais relever ce que M. Ziguele vient de dire. Vous savez, à longueur de journée, on est sur le président Touadéra. Même vos proches, vos amis, sur les réseaux sociaux, ceux qui sont proches de vous, qui sont connus, insultent à longueur de journée les autorités. À aucun instant, vous avez levé un petit doigt pour dire non, on ne peut pas insulter une institution. Vous ne l'avez jamais fait. Vous le dites tout à l'heure, je le relève ici et je vous le dis. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'il y a une culture politique et une culture politique qui est développée parce que ces situations-là, politiquement, on veut exploiter. Nous savons, il y a des situations pendant devant la cour, chacun veut tirer. Politiquement.
Chacun qui?
Je le dis.
Vous êtes en train d'avouer que c'est
non,
vous qui...
Non, écoutez, je parle des gens d'en face. Je parle des gens d'en face. Parce que ce que vous dites ici me permet de relever un certain nombre de choses. Je suis d'accord avec vous lorsque vous parlez du respect. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut respecter les institutions. Malheureusement, à longueur de la journée, on insulte ces institutions. Nous sommes le seul pays où on fait traîner dans la boue les institutions. On ne donne plus de la considération, n'est-ce pas, à la fonction de président de la République. Et vous le savez, vous êtes un homme politique comme moi.
Non, vous n'êtes pas un homme politique, vous êtes membre d'un gouvernement.
Attendez, je suis un homme politique.
Non, ça n'est pas la même définition. Vous êtes membre d'un gouvernement.
Permettez-moi de continuer. Je voudrais vous dire que dans le contexte centrafricain, là où nous sommes, tel que vous le développez tout à l'heure, je ne veux pas qu'on fasse de cet incident-là, n'est-ce pas, une occasion. Et je sais ce qui est derrière ce que vous avez dit. Je le dis avec force et je le répète. Nous ne sommes pas pour la violence et nous n'accepterons pas la violence. Ça c'est clair. Et de deux, non, parce que je reviens.
Mais nous sommes d'accord.
Je relève ce que vous avez dit. Nous ne sommes pas un pouvoir autocratique tel que vous le dites.
Vous y êtes.
Tel que vous le dites.
Nous
ne sommes pas.
Vous y êtes.
Nous ne sommes pas parce que nous travaillons pour ce peuple et notre intérêt c'est servir ce peuple. Nous le faisons selon nos possibilités. Et comme vous le dites si bien, vous jouez votre rôle. C'est normal. C'est normal que vous le dites parce que vous n'êtes pas à notre place. C'est normal. Les contingences et autres, c'est nous qui les subissons, c'est nous qui les connaissons et nous cherchons à apporter les solutions. Je pense qu'il faut changer de démarche. Il faut changer de démarche et d'approche politique parce que la manière à laquelle vous posez le problème en tant qu'opposition fragilise les relations parce qu'on ne voit plus le peuple centrafricain. Vous voyez, depuis que vous parlez là, vous ne voyez pas le peuple centrafricain. Vous êtes loin du peuple centrafricain. Parce que je veux que vous changez la manière, la perception...
Quelques secondes.
Permettez-moi, s'il vous plaît. Vous changez la manière, la perception de concevoir cette politique dans notre pays. Mais je veux vous dire une chose. Nous n'allons jamais, jamais... conçu ce pays avec ce modèle politique.
Voilà, le temps nous fait défaut. Revenons à notre sujet Patara du jour. La dégradation avancée des routes, la hausse des prix des denrées alimentaires, la pénurie de carburant, bref, le chantier est vaste. Monsieur Balalou, les ressources domestiques, 121 milliards de francs CFA, peuvent vraiment tenir face à ces exigences qui se dressent devant vous, en tant que tel membre du gouvernement ou gouvernement.
Vous savez, nous sommes dans un contexte difficile, nous le reconnaissons. Le collectif budgétaire a été voté par l'Assemblée nationale. Nous avons un gap de plus de 21 milliards que nous allons, à travers des mesures que nous allons prises, des recommandations fortes pour résorber ce gap-là. Nous savons que depuis quelque temps, c'est vrai, vous avez parlé des aides budgétaires qui ont été suspendues. Oui, c'est vrai, mais nous sommes réorganisés et nous arrivons à faire face à nos charges régaliennes. Nous arrivons avec le peu de moyens que nous avons pour essayer de reconstruire notre pays. Mais nous voyons l'intérêt avec, avec lequel nos partenaires reconnaissent les efforts que nous faisons. Et nos partenaires sont en train de nous accompagner encore plus fortement. Je vais vous dire une chose. Vous savez, depuis longtemps, plusieurs régimes qui sont succédés, on n'a pas fait attention. Il y a eu tellement de déperditions de recettes, M. Zigele le sait très bien, nous n'avons toujours pas fait très attention. Et nous sommes rendus compte, lorsque on a commencé à avoir des difficultés, on dit qu'attention, on doit commencer par nous-mêmes. Et c'est ces efforts-là qui sont faits à travers une bonne gestion, ça il faut que je vous le dise. Il y en a qui pensent que les ressources, les ressources malgaches ne pouvaient pas être capables de pouvoir faire face à un certain nombre d'obligations régaliennes. Si nous le faisons maintenant, c'est parce que nous arrivons à mieux canaliser nos ressources, mais nous irons plus loin. Nous irons plus loin et je peux vous rassurer.
Mais avec, sur la base chiffre, des efforts, avec ce chiffre de 121 milliards et le chantier devant vous, mais cela va se faire comment?
Mais vous voyez les chiffres. Globalement, je vous dis la démarche. Quelle est la démarche du gouvernement? Quand vous parlez des 121 milliards, vous savez, on avait un gap de plus de quand on prend les aides budgétaires, hein, on était à plus de 60 quelques milliards. Les mesures qu'on a prises en réduisant un certain nombre de postes de dépenses non prioritaires, ça nous a permis justement de faire face à un certain nombre d'obligations. Mais là où nous sommes, nous tenons, nous y allons parce que nous avons pris des mesures et ces mesures ont conforté justement la possibilité et les capacités de l'État à faire face, mais au minima. Mais nous sommes optimistes dans le cadre des mesures qui sont prises, ok, nous allons tenir et le pari, je vous le dis encore, vous le verrez, hein, vous le verrez, les perspectives sont bonnes.
Voilà. Monsieur Zigele, sur cette même question de ce qui, comme chantier en face du gouvernement, avec ce chiffre que vous-même, député, vous avez voté récemment, 121 milliards de francs CFA pour régler ou bien tenir le coup par rapport à la tension des trésoreries.
Je vous remercie. Je voudrais d'abord dire à mon jeune frère, le ministre Balalou, que je lui conseille d'écouter attentivement quand il est en face de quelqu'un. Il ne pourra jamais apporter la preuve que le MLPC ni quelqu'un de proche de moi a insulté les institutions. Pour la simple raison que j'ai toujours candidaté pour être président de la République. Donc je ne peux pas organiser ou dresser des personnes pour insulter les institutions. Vous ne m'avez jamais entendu. Jamais entendu le faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport à l'économie, je suis encore plus surpris. Parce que M. Balalou, que vous voyez là, c'est un cadre des finances. Il sait que l'État est en banqueroute. Il le sait. 121 milliards de prévisions de recettes, c'est même pas le chiffre d'affaires annuel d'une station d'essence à Douala. Vous le savez, pour un pays. Et c'est la conséquence d'une mauvaise diplomatie. Quand le président Touadéra a été élu en 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'étiez pas encore ministre. Vous étiez, sauf si je me trompe, mais en 2016, vous n'étiez pas encore ministre. Les personnes que vous insultez aujourd'hui à longueur de journée via les groupes de soutien, là, nous étions aux côtés du président Touadéra à Bruxelles pour faire le plaidoyer. On nous a aidés massivement. Je pleurais de joie dans la salle à l'annonce des contributions. Tout le monde se bousculait pour aider la RCA. 2016, 2017, 2018. 2019. Le Premier ministre Mouloua qui est là, qui est ministre du Plan, qui était ministre du Plan, qui l'est toujours d'ailleurs. Il sait que j'étais dans le comité directeur conjoint qui dirigeait l'APPR, qui pilote l'APPR. Il se cassait la tête pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup de projets sectoriels dans les départements pour absorber l'aide. Parce que l'absorption n'était pas. C'est-à-dire qu'on avait tellement de ressources en prévu qu'il n'y avait pas suffisamment de projets pour les absorber. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? C'est ça que vous devez expliquer aux Centrafricains. Pourquoi nous étions dans une situation budgétaire confortable et que brusquement, tous nos partenaires ont retiré leur soutien? Ça, un gouvernement, pas vous, le Premier ministre, le Président de la République, doit expliquer ça aux Centrafricains. Pourquoi ça a changé? L'explication, ce n'est pas d'insulter les partenaires. C'est de dire, voilà, nous avons pris les options, nous les assumons et en conséquence, il faut faire ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, par rapport au budget, je vais vous surprendre. Mais depuis que je suis député à la commission des finances, à chaque session budgétaire, que ce soit dans le cadre de la loi des finances initiales ou que dans le cadre du budget rectificatif, je me fais toujours un devoir de donner des conseils par rapport à une mobilisation de plus en plus accrue des recettes domestiques. J'ai entendu le discours du Premier ministre devant la commission récemment et celui du ministre des Finances. J'ai entendu également le discours du Premier ministre à la clôture du séminaire gouvernemental, je ne sais pas si on va y revenir. Et il parlait de cette déperdition de ressources-là. Vous le savez en tant que financier, que le taux de pression fiscale en Centrafrique est de entre 8 et 9 %. C'est le plus faible de l'Afrique centrale. Ça veut dire que nous avons du travail à faire pour fiscaliser notre économie. Et vous le savez,
Moi, ce qui me surprend, c'est que chez nous, c'est comme si on s'est passé le mot. Quand on devient ministre, on répète ce que le gouvernement dit, même quand vous savez que c'est faux. Je suis convaincu, M. Balalou, que si vous vous retrouviez dans un cercle restreint avec moi en train de discuter finances publiques, vous n'allez pas tenir ce raisonnement-là. Vous ne pouvez pas vous satisfaire d'un budget de 121 milliards en prévision de ressources. Vous êtes d'accord avec moi? Pour un pays de 5 millions d'habitants où il n'y a pas de route, quand vous allez à Bangassou, vous arrivez à Sibut déjà pour arriver à Grimari, Alindao, Kombo, Kembe, Gambo, Bangassou. Il n'y a plus de route. Je ne parle pas de Zemio, Obo, Rafaï, etc. Et vous savez très bien que ce n'est pas sur les ressources du budget qu'on construit les routes. Vous le savez, non? Vous le savez autant que moi. Nous avons à peu près le même cursus. Vous le savez, on ne finance pas le budget, on ne finance pas les infrastructures sur le budget de l'État. On le finance pour un pays aussi endetté que la RCA, on le finance sur les dons. On le finance sur des prêts qui ont des conditions de quasi-dons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il faut avoir une diplomatie. Une diplomatie constructive. C'est ce que nous faisions entre 2016 et 2019. Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous me parliez, vous avez repris en disant que pourquoi j'ai parlé d'autocratie et que le terme était faux. Mais justement, l'autocratie commençait à naître à partir de 2019, avec vos premières tentatives de modification de la Constitution. Et c'est là où les gens ont commencé à se méfier de vous. Et la gestion a commencé à être opaque. Et les contacts, les relations très, très, très fructueuses avec la communauté financière internationale se sont rompues. Vous voulez me faire croire à moi, Martin Ziguelé, que l'État centrafricain va s'en sortir avec un budget de 121 milliards, alors qu'ailleurs, des pays ont des budgets de 2 000 milliards, 3 000 milliards, 6 000 milliards? Non.
On écoute, M. Balalou.
La seule chose que je vous conseille, parce que vous êtes un financier, c'est pour ça que j'ai accepté de débattre avec vous des finances. Il faut que vous arriviez à convaincre le gouvernement que nous ayons des états généraux de l'économie centrafricaine, avec une grande partie des débats consacrés aux finances publiques. Comment faire pour avoir un budget robuste pour construire notre pays? C'est ça qui devrait faire l'objet d'un vrai débat dans ce pays-là. Parce que vous ne savez pas à quel point les Centrafricains souffrent. Vous dites que je ne suis pas proche du peuple. Vous savez d'où je viens ce matin? J'étais au PK13 à une place mortuaire. Avec mon véhicule, j'ai abandonné le véhicule pour marcher dans la boue. À Bangui. Les Centrafricains souffrent.
On écoute, M. Balalou. Vous avez deux minutes pour compléter le timing avec M. Ziguel.
Je voudrais tout ce que M. Ziguel vient de dire. M. Ziguel donne l'impression que ceux qui gouvernent ce pays ne savent pas ce qu'ils font. C'est grave.
J'ai pas dit
très
ça.
Grave. Très grave. Vous voyez.
J'ai pas dit ça. Si c'est vous qui le dites.
Je vais vous dire une chose. Vous oubliez, M. Ziguel, qu'en 2013, quand ce pays a été envahi par une horde de mercenaires, vous oubliez que ce pays a été détruit quasiment, toutes les infrastructures. Vous oubliez qu'on avait un taux de croissance de moins de 36%. Vous oubliez qu'on était dans une récession grave. Vous oubliez que quand Touadéra arrive au pouvoir, vous oubliez que le pays était quasiment 80% occupé par qui? Vous oubliez tout ce qui a été détruit. Vous pensez qu'on va le faire en un seul jour? Vous oubliez ce qui est grave, quand vous le dites, les dons, les annonces qui ont été faites. J'étais à Bruxelles. J'ai travaillé dans ce cadre-là. Vous oubliez que une bonne partie de ces annonces-là, la situation humanitaire était tellement grave que vous savez que une bonne partie était dans les humanitaires. Vous oubliez que les conditions sécuritaires n'ont pas facilité justement la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Vous faites comme si rien n'a été, tout a été clean dans ce pays. C'est ça qui est grave. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Dans votre raisonnement tout à l'heure, vous faites comme si c'est un pays, on était dans un pays normal.
Mais vous êtes d'accord avec moi pour le reste?
Non, attendez, je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous raisonnez comme si on était dans un pays normal. C'est un pays qui était abîmé. Abîmé par la faute de qui? Par la faute de vous politiques. Je parle de vous politiques.
Ah, vous m'avez dit que vous étiez politique aussi.
Attendez, mais il faut que je vous le dise. Par la faute de qui? Ce pays a été saucissonné par la faute de qui? Et si maintenant, on essaie, pas à pas, de travailler inlassablement, la situation est très dure, mais on a pu stabiliser la situation. Là où nous partons, à l'époque, pour arriver, vous prenez 2016, où il y a un petit travail qui a été fait pendant la transition, insuffisant. Tout le travail qui consistait à réunir le minimum de conditions pour favoriser un développement tel que vous le dites, vous parlez de routes et autres. Mais vous savez bien, le talon d'Achille, c'était la sécurité. Et tout l'effort qui a été fait. Mais maintenant, nous arrivons à une stabilisation de la situation de ce pays-là, vous le savez bien. Ce pays, quand vous prenez sur le plan sécuritaire, M. Zigele, regardez en arrière. Regardez là où nous sommes arrivés. Aucun régime n'a pu faire ce que le président Touadéra a fait pour créer les conditions indispensables à la relance du développement de ce pays-là, à savoir la sécurité. Et vous savez bien, votre raisonnement, hein, vous aurez dû, je pouvais vous le concéder, hein, vous aurez dû, là aussi d'accord avec vous, on doit parler. On doit discuter justement de toutes les questions économiques de ce pays-là ensemble.
Monsieur Badalou,
et c'est ce que je veux. Et c'est ce que nous voulons. On doit travailler ensemble.
Monsieur Badalou, pour gagner
vous,
du temps.
Vous qui regardez différemment de nous et nous qui avons le nez dans le guidon, travaillons, réfléchissons pour voir comment on doit le faire. Mais malheureusement, il n'y a pas cette volonté.
Voilà, une minute de plus pour boucler ce chapitre. Monsieur Zigele, vous avez une minute, 30 secondes pour compléter les minutes.
Franchement, je fais des efforts, mais je ne sais pas sur quoi M. Badalou n'est pas d'accord avec moi. Je ne sais pas sur quoi. Nous sommes d'accord, un, que vous étiez conseiller du Premier ministre Cameroun, 2014, peut-être même jusqu'à fin 2014, 2015 même, je crois. Le budget, c'était combien en recettes en 2015? Après ce plongeon de moins 34% du PIB, après la sortie, nous étions à combien? Vous vous souvenez des chiffres? Regardez le budget aujourd'hui en recettes d'un État, monsieur le ministre et spécialiste des finances publiques. Je ne vous pardonne pas ce discours parce que vous savez très bien de quoi vous parlez. Vous n'êtes pas un administratif ordinaire, vous êtes un financier. Vous savez que ce budget-là, c'est un budget ridicule. Et je veux vous poser une question, c'est comme un chrétien, un prêtre pose une question à un chrétien. C'est avec 121 milliards que vous allez relever la RCA de recettes par an. Vous savez que ce n'est pas possible. Ce budget est un budget récessif. Nous sommes en récession. Et nous devons, la vraie question qu'il faut se poser, comment faire pour raccrocher le wagon à la communauté financière internationale. Vous le savez autant que moi. Il faut faire ce travail-là. Ça ne dépend pas de vous. Ce n'est pas un ministre qui dépend de ça. Ça dépend du président Touadéra lui-même. Est-ce qu'il fait le choix entre le développement de son peuple, c'est-à-dire avoir les moyens pour mener le programme pour lequel il a été élu, ou bien il a d'autres options qui ne concernent pas le peuple? C'est ça la vraie question. Ce n'est pas une question...
Monsieur Zigele, merci beaucoup.
Vous pensez qu'on a repris avec la communauté internationale? Vous voulez faire croire qu'on a repris avec la communauté internationale? C'est ce que vous voulez nous faire croire?
Non, je ne vous fais pas croire. Je suis en train d'affirmer qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes budgétaires graves. L'État n'a pas de ressources. Les ressources de l'État ne servent qu'à payer le fonctionnaire, mais même le fonctionnement de l'administration n'arrive pas à être assuré. Tout le monde le sait. Je ne vous oblige pas à répéter ce que je dis. Je l'assume. C'est Martin Zigele qui le dit et qui l'affirme. Parce que je suis député, je suis de la commission finance, j'ai étudié le budget de long en large. Nous avons un problème de ressources budgétaires. Il faut que nous trouvions des moyens pour la viabilité financière de notre pays.
Nous devons trouver
des moyens pour la viabilité
financière. C'est ce que fait le gouvernement, M. Zigele. Vous ne nous apprenez rien. C'est ce que fait le gouvernement.
Je ne prétends pas vous apprendre quoi que ce soit.
C'est ce que fait le gouvernement.
J'affirme ce que je crois.
C'est ce que fait le gouvernement pour mobiliser les ressources.
Oui. Effectivement, je vous propose d'écouter l'extrait d'une interview du président Touadéra. Lors de la clôture du séminaire gouvernemental, il a dévoilé la stratégie face à la tension de trésorerie que connaît son pays.
Comme je l'ai dit, c'est un séminaire gouvernemental pour recentrer le gouvernement autour de certains nombres d'objectifs. Aujourd'hui, avec la crise, avec d'autres situations, vous savez que certains nombres de partenaires ont suspendu des appuis budgétaires pour des raisons que nous ne connaissons pas, mais on doit se retourner sur une mobilisation de ressources internes accrues. Et c'est pour ça que ce séminaire a été convoqué. Et ça a permis à tous les membres du gouvernement, chacun dans son secteur, de présenter les atouts, les défis, et puis aussi les relations avec certains nombres de partenaires. Parce que certains partenaires travaillent dans certains nombres de secteurs. Donc, on doit tout faire pour recentrer et aussi permettre à chaque membre du gouvernement de connaître ce qui se passe aussi au sein. C'est-à-dire le travail interministériel. Et donc, il y a des recommandations pour permettre justement, dans un premier objectif, la collégialité et aussi la mobilisation des ressources et permettre aussi permis à chacun de connaître les difficultés et aussi les opportunités pour chaque département.
C'était le président centrafricain dans le débat politique Arduino Kéloka. Est-ce que les stratégies mises en place peuvent permettre d'atteindre les résultats escomptés, monsieur Balalou?
Vous avez fait citer le président tout à l'heure, je partage à 200% ce qu'il vient de dire. Nous tirons, vous savez, quand on travaille dans un gouvernement, on fait des évaluations, on essaie de regarder ce qui a été fait, tenir compte des faiblesses et corriger. C'est ce que nous avons fait. On a identifié, dans le cadre de ce séminaire gouvernemental, un certain nombre d'objectifs que nous allons pouvoir réaliser. Et je vous dis encore que les ressources, nous avons des niches de ressources dans ce pays, et comme l'a dit tout à l'heure le président Ziguele, nous travaillons pour identifier ces niches-là. C'est vrai, il y a des ressources qui sont générées par certains ministères, il n'y a pas que ça. Vous savez que nous avons la fiscalité au niveau rural, le foncier rural. Vous savez que vous prenez un exemple simple. Vous voyez à Bangui, il y a des gens qui disposent de 3-4 logements qui se mettent en location. Dans les textes, habituellement, vous avez le premier logement principal, vous ne payez pas d'impôts. Mais les autres logements, vous devez payer les impôts. Donc il y a des niches de recettes pour lesquelles, le plus souvent, nos services, il faut le reconnaître aussi, n'ont pas pu faire le travail correctement, et on a engagé les ministres pour que nous puissions travailler dans le sens d'une plus grande mobilisation de ressources. C'est vrai, nos moyens sont limités, mais nous ne nous comptons pas, nous ne restons pas dans ce cadre-là. Nous voulons, dans la démarche, et ce qui est novatrice dans ces démarches-là, je vous le dis, c'est que maintenant, les ministres travaillent plus en interministérialité. Parce qu'avant, vous prenez l'agriculture, c'est vrai, mais quelqu'un produit, il doit évacuer le produit. Mais pour évacuer le produit, il faut qu'il y ait des pistes rurales, il faut qu'il y ait la route, il faut qu'il y ait une véritable concertation au niveau ministériel. Et ça, on a mis en évidence un certain nombre de faiblesses. Et comme l'a dit le président tout à l'heure, on a des difficultés de ressources. Nous le reconnaissons, mais nous travaillons pour mobiliser plus de ressources. Et c'est ce qui se fait. Vous voyez dans les prévisions dressées des douanes, vous avez vu les efforts que les douanes ont fait. C'est pas suffisant encore. Il y a encore un travail important à faire. Et nous le faisons vraiment pour trouver des solutions. C'est une approche que nous avons et nous allons, avec détermination, pouvoir créer ces conditions-là pour satisfaire aux besoins de l'homme.
Monsieur Ziguele, sur l'extrait de l'interview du président de la République.
Oui, je veux reculer un peu. En 2014, c'est le Premier ministre Kamoun qui a inauguré les séminaires gouvernementaux dans ce pays et vous étiez son conseiller, je crois. Vous l'avez fait en une journée. Dans le principe, le séminaire gouvernemental est une bonne chose. Dans le principe. Parce que ça permet d'harmoniser la manière de travailler déjà, de s'assurer que nous avons tous les mêmes objectifs. Et dans la démarche opérationnelle également, c'est de voir qu'il y a une cohérence entre l'ensemble de l'équipe gouvernementale. C'est une bonne chose. Mais je pense que cela aurait dû se faire à la mise en place du gouvernement. Ça, c'est mon opinion personnelle. Ça aurait dû se faire à la mise en place du gouvernement. Parce que si on regardait les choses d'une autre manière, on dirait dans ce cas que l'ensemble des ministres qui sont au gouvernement depuis leur nomination jusqu'à aujourd'hui ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Et que c'est ça que ça veut dire. Et que c'est ce séminaire-là qui leur apprendrait à faire le travail qu'ils étaient censés faire depuis 2 ou 3 ans ou même 6 ans pour certains. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu beaucoup de publicité pour une opération qui aurait dû se faire en 2, 3, 4, 5 jours. Si vous avez des ministres qui ne savent pas comment faire leur travail, ben vous les mettez de côté. Est-ce qu'on a besoin de faire un séminaire gouvernemental pour cela? C'est un secret de polichinelle. Qu'il y a des ministres qui ne savent pas de quoi ça retourne. Mais j'ai un principe et je ne veux pas aller plus loin. Je ne critique jamais un ministre. Regardez dans toutes mes déclarations, écrites, verbales, je ne critique jamais un ministre. Parce qu'un ministre, c'est comme l'enfant de quelqu'un. Quand l'enfant se comporte mal, regardez comment ses parents l'éduquent. On ne peut pas former un gouvernement avec des ministres qui sont là depuis 6 ans et puis un beau matin, les rassembler pendant un mois pour dire c'est maintenant qu'on va vous apprendre comment vous allez travailler et ceux qui ne tiennent pas, on va les renvoyer. Ça veut dire que depuis 6 ans, on ne savait pas ce qu'on faisait ou ceux qui sont là, on a des doutes sur leur efficacité. Donc un premier ministre, c'est pour donner, un ministre, c'est pour un gouvernement, c'est pour donner des résultats. Vous savez ce que je veux faire? Je veux mettre en place une structure d'analyse et de prospective économique, un observatoire. Je veux prendre les engagements du gouvernement, les agrégats au départ, en un. Et chaque année, je veux donner le résultat atteint ou pas. Parce que vous faites beaucoup de fumée pour cacher le fait que, en fait, il n'y a rien. Je vous parle des routes, monsieur Balalou. Les députés qui sont allés faire campagne dans l'est de notre pays pour mobiliser les gens pour marcher pour la Constitution. Vous savez comment ils sont arrivés vers Bangassou, Rafa et autres? Ils ont traversé Zongo ici, ils ont pris des motos. Ils sont allés jusqu'à Guémena en moto, ils ont monté jusqu'à Gbado. Et de Gbado, ils ont traversé le fleuve. Voilà des gens qui vont faire campagne
pour quelque chose dont les Centrafricains n'ont pas besoin, alors qu'ils ne peuvent même pas circuler sur la route dans leur pays. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire des priorités. Je suis d'accord avec vous que le budget centrafricain ne fait ni ma fierté, ni votre fierté, et ne devrait faire la fierté de personne. Parce que c'est notre pays. Il s'agit des ressources pour chercher à développer notre pays. Et je vous l'ai dit, la pression fiscale en Centrafrique, c'est 8 à 5% du PIB, alors que la moyenne en zone CEMAC, les indicateurs de la CEMAC, c'est 17% minimum. Et vous le savez.
On écoute, M. Banabo.
Donc, nous avons un gros gap.
Une minute.
Ce que nous devons faire, c'est de travailler pour mobiliser les ressources, surveiller l'action gouvernementale pour qu'il y ait des routes, pour qu'il y ait des écoles, pour qu'il y ait des ponts. Ici, au PK9, là, ça fait combien d'années qu'on nous promet un BAX pour aller en Baïkir? Vous voyez le pont du PK9, là, un jour, il va s'écrouler. Et les problèmes de relance des filières agricoles, c'est toujours mon dada. Vous êtes économiste, vous savez qu'il faut créer de la matière et après il faut le fiscaliser pour que le budget soit robuste.
Monsieur
je rêve de cela. Vous entendre me dire au moins que ce que je dis, c'est pas contre toi, Dera, ou contre qui que ce soit.
Monsieur Banalou, prenez la parole. Vous avez une minute, 30 secondes pour compléter le timing.
Merci. Je réponds tout de suite à M. Ziguele. Une partie de son point de vue m'intéresse particulièrement. Je vais vous dire une chose. Un séminaire gouvernemental, je reprends d'abord avant de rebondir sur l'autre aspect. On organise un séminaire gouvernemental pour faire des évaluations. Vous le savez bien. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous organisons un séminaire gouvernemental. Depuis que le président Touadéra est là, je crois que c'est le troisième séminaire gouvernemental que nous organisons. Et je tiens à vous le dire qu'un gouvernement qui veut réaliser des objectifs doit mis par coup faire, n'est-ce pas, une auto-évaluation. Le premier ministre Moloa est arrivé dans le contexte que vous savez. C'est normal que nous puissions réorienter le champ de nos comptes du contexte actuel. Et je vous le dis encore, ce n'est pas parce que quelqu'un reste, comme vous l'avez dit si bien tout à l'heure, plusieurs années, qu'on ne peut pas remettre en cause un certain nombre d'objectifs et réorienter en tenant compte des réalités. Nous parlons des réalités.
Une minute.
Et je vais vous dire, les routes, ce sont nos préoccupations. Bien qu'on ait une marge de manœuvre limitée, nous travaillons.
Nous essayons
avec le peu de moyens que nous avons,
oui.
Il faut que je vous le dise, avec le peu de moyens que nous avons, n'est-ce pas, nous ouvrons des voies. Nous le faisons.
Parce que je suis député d'une petite localité est coupée du pays depuis.
Non, mais vous voyez l'axe jusqu'à Baoro. Vous ne voyez pas, vous ne circulez pas, M. Ziguele.
C'est vrai Baoro, que. C'est pas vous qui l'avez fait.
Mais attendez, si c'est pas nous.
C'est pas le budget, c'est pas vous.
Mais on ne peut pas financer que sur le budget. Nous avons des appuis extérieurs, vous disiez tout à l'heure. Nous continuons à voir les appuis, si vous ne le savez pas. Nous continuons à voir les appuis. Dans ce domaine-là, nous continuons à voir les appuis. Je ne peux pas en discuter pour ça, mais peut-être vous n'avez pas les informations. Nous continuons à voir les appuis. Nous continuons à voir les appuis, dans le domaine de la construction des routes, je vous le dis. Au niveau de l'agriculture, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, où je partage les préoccupations, mais il y a un programme important que nous avons mis en place avec le ministre de l'Agriculture. Et je vous dis encore, je vous rassure. Je peux vous le dire.
Ça fait 6 ans que j'entends ça.
Nous
n'avons pas assez de temps. Je vous en prie, prenons à présent les réactions de certains leaders de la société civile, en commençant par la coordinatrice du réseau des femmes leaders de Centrafrique, sur cette question aussi.
Je suis Madame Chantal Solange Toabena. Mon humble avis sur la situation socio-économique du pays, c'est que le pays fait du surplace. Nous n'avançons pas. Quand on voit l'état des routes, ça laisse à désirer. Vous voyez, c'est dans tout le pays, même à Bangui, quand vous quittez même l'aéroport pour circuler vers la ville, il y a des endroits où c'est vraiment exécrable. Les Centrafricains ne mangent plus à sa faim. Les denrées coûtent cher sur le marché. Et aussi, à cela s'ajoute le problème de carburant, qui est vraiment un problème qui nous pénalise le peu d'argent que nous avons. On est obligé d'acheter le carburant cher. Si à la station, on ne peut pas se procurer du carburant, on est obligé d'acheter plus cher chez les détaillants. Et cela nous pénalise parce que si le carburant n'est pas de bonne qualité, les véhicules en pâtissent. Le pays vraiment fait du surplace. Nous n'avançons pas. Merci.
Bonjour mon très cher Armando. Je suis Alain Lokouma Patrick, le coordonnateur de la plateforme de la société civile Génération Consciente. L'activité sociale et économique de la République centrafricaine au jour d'aujourd'hui est au beau fixe. Vu l'effort accru que le gouvernement est en train de fournir dans ce sens, vu l'esprit catalyseur qui guide le chef de l'État, le professeur Faustin Conch-Touadéra, qui est en train de se battre énormément dans ce sens, nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement de continuer dans ce sens. Et aussi, il faudrait que chaque Centrafricain puisse s'en approprier, que l'esprit de la citoyenneté peut-être que nous ne cherchons pas à s'en approprier, il est temps que chaque Centrafricain se mette dans sa tête, là où il est, dans les services les concentrés de l'État, de voir juste l'intérêt général et de laisser de côté tout ce qui est personnel, tout ce qui est partisan, tout ce qui est purement égoïste. Il faudrait que nous laissions tout ça de côté et mieux vaut souffrir maintenant et rechercher une solution durable pour l'avenir de notre pays. Raison pour laquelle nous, au niveau de la plateforme Génération Consciente, nous pensons qu'il est temps que chaque citoyen dans son petit coin puisse accompagner le gouvernement, puisse suivre l'idéologie du président de la République, puisse travailler dans tous les secteurs et respecter les normes et les lois de la République, et aussi faire de telle sorte que l'avenir de chaque citoyen centrafricain puisse être décent. Il nous faut nécessairement s'approprier les 5 verbes du Buganda: loger, nourrir, vêtir, instruire, soigner. C'est ce qui devait guider chaque centrafricain. C'est ce qui devait guider, même si aujourd'hui c'est difficile, même si aujourd'hui nous constatons qu'il y a des failles ici et là, mais ensemble, avec l'effort que nous fournissons, nous trouverons la solution. Et la solution est déjà à notre portée. Il suffit seulement de travailler, travailler dur. Il suffit que l'esprit de citoyenneté guide tout et chacun, l'esprit patriotique guide tout et chacun, pour que cette assiette économique que nous recherchons tant et que le chef de l'État est en train de faire de tout son pouvoir pour inculquer à chaque Centrafricain d'assumer sa responsabilité là où il est pour l'intérêt général.
Bonjour, je suis Gervais Lacosso du groupe de travail de la société civile. Mais tout le monde sait que la situation socio-économique du pays est catastrophique parce qu'il n'y a pas eu d'innovation depuis l'avènement au pouvoir du président Touadéra, et il n'y a pas eu d'innovation sur le plan socio-économique, je dirais d'ailleurs sur beaucoup de plans. Ce qu'on appelle une superstructure en matière sociale et économique n'a pas été mise en place, c'est-à-dire nos intellectuels, nos politiques, c'est tout le monde, chacun n'a pas fait son travail, et surtout le leadership pour donner la direction à suivre laisse à désirer. Et la situation aujourd'hui est très 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 grave. Moi je reviens de Bossangoa, 305 km de Bangui, nous avons quitté à 8h, nous sommes arrivés à Bangui à 21h. Vous imaginez le drame, ça veut dire qu'il n'y a pas de route, alors que la route est un grand facteur économique. La route apporte le développement, permet des mouvements économiques entre les régions du pays, parce que le développement économique doit d'abord se maîtriser en interne. Ce n'est pas le cas. On est sur beaucoup de théories, on est attentiste, on attend les orientations de la Banque mondiale, du FMI, les projets qui arrivent par les partenaires, mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons pensé? Qu'est-ce que nous avons programmé? Qu'est-ce que nous avons imaginé? On peut même se demander où sont nos économistes? Où sont-ils? Où sont les initiatives? Où sont les innovations? Il n'y en a pas. Ça laisse à désirer. Et je crois qu'il y a un moment de sortir de la politique. Parce que moi, je vois que le gouvernement, tout l'appareil de l'État est concentré à faire de la politique politicienne. Et ils oublient de faire l'essentiel. Le gouvernement, réellement, n'est pas un organe politique. C'est l'exécutif du pays. Chaque ministre a un portefeuille. Et si chaque ministre faisait son travail comme il se doit, ça devrait bouger les lignes, ça devrait apporter le développement. Mais tous les ministres se concentrent à faire de la politique pour conserver leur poste au gouvernement. Et c'est dommage, c'est très très dommage. Le président de la République a son parti politique, il a son organisation politique qui devrait faire la politique politicienne pour l'aider à faire tout ce qu'il veut. Mais le gouvernement, c'est l'exécutif, c'est pour mettre en œuvre ses programmes, ses projets de développement. Mais malheureusement, il y a une confusion totale. On espère que ces séminaires peuvent les aider dans ce sens.
Les leaders de la société civile, hein, nous avons fait l'exception pour ce débat. Tous les centrafricains d'ici d'ailleurs qui ont envoyé des réactions orales et écrites, nous avons pris en compte en insérant ou en posant toutes ces questions. Je reviens vers vous. Vous avez une minute, 30 secondes, puisque le temps nous fait défaut. Monsieur Balalou, sur les réactions de ces leaders que vous venez d'écouter.
Vous savez, chaque centrafricain doit apporter sa contribution pour relever, n'est-ce pas, les défis qui s'imposent à nous.
Comment ?
Le développement de ce pays. Vous pensez que, quand on parle de ministre, vous n'avez pas que le ministre, ok ? Vous avez toute une structure, toute une batterie derrière. Vous avez le centrafricain, quelle que soit sa position, doit travailler. Vous savez qu'on a perdu la notion de travail depuis des années. Est-ce que vous savez ça ? Hein ? Le goût de l'effort, on a perdu depuis des années à cause d'un certain nombre de concepts qu'on a développé. Le centrafricain, je le dis sérieusement, le centrafricain oublie qu'aujourd'hui, là où nous sommes, dans un contexte aussi difficile, que nous devrions, et j'ai écouté tout à l'heure, ça me fait plaisir, nous tenir la main, parce que comment on doit faire pour construire un pays ? C'est une volonté politique d'abord, et une volonté de chaque centrafricain à accepter sortir de cette situation. Et ce qui est difficile, et ça je le dis encore, je le répète encore, c'est de changer cette mentalité. Cette mentalité d'assister, de changer cette mentalité qui doit nous amener à rechercher par nous-mêmes les voies et moyens pour sortir de nos situations. Et c'est ça la vision qu'inculque le président Touadéra. Nous voulons maintenant, là où nous sommes depuis quelques années, vous le dites, quand on fait l'histoire politique de ce pays, on voit toujours, on revient sur les intellectuels. On dit, ce sont les intellectuels, ok, qui sont à l'origine, n'est-ce pas, du désastre dans ce pays. Mais là où nous sommes aujourd'hui, la seule question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on doit faire pour notre pays ? Et c'est une question fondamentale et chacun doit le faire en se détachant des concepts et des a priori.
Voilà.
Je vous remercie.
Monsieur Ziguele, vous avez une minute 40 comme l'autre pour réagir par rapport aux propos des leaders de la société civile.
Mais je vais ajouter à ce que disait le ministre que justement, c'est des intellectuels qui dirigent ce pays. Le président de la République était un professeur d'université. Mais ce que ce gouvernement trouve de bien à faire, c'est de donner de l'argent à des gamins pour aller insulter des chefs d'institutions issus de la Constitution.
Oui, oui.
Donc, voyez.
Oui, vous faites une instrumentalisation politique de ça. Vous faites de ça une préoccupation politique. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que.
C'est votre droit.
Oui, oui. Vous revenez toujours sur ça. C'est quoi ? Quel message vous voulez donner à la population ?
Je ne vous ai pas coupé quand vous parliez.
Non, parce que.
Je ne vous ai pas. Monsieur le ministre. C'est non. Pas vous qui faites l'interview, c'est M.
Oui, oui,
monsieur
Balalou.
Et quand vous parliez, vous avez remarqué, chaque fois que vous parlez, je ne dis absolument rien. Parce que je vous écoute et après je réponds. Non, je suis en train de dire qu'il dit que le pays, c'est la faute des intellectuels. Je dis, mais c'est un intellectuel qui dirige le pays aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites réellement tous les jours ? C'est d'instrumentaliser des jeunes à coups de 100 francs pour aller insulter les gens.
Et vous ?
Faire ceci.
Et vous, vous
je
faites quoi ?
Je ne l'ai jamais fait.
Et vous faites
donc,
quoi de l'opposition ?
Ça, c'est pas la loi.
Notez,
le temps fait défaut.
Je finis de manière simple. Quelqu'un qui est un expert, un orfèvre en matière politique, le président Bongo, il disait que son miroir quotidien, c'est sa population, son peuple. C'est-à-dire quand il sort, il circule dans Libreville, dans le pays, et il regarde, il observe son peuple. Quand les gens sont contents, ils rient, etc., il se dit « Ah !» Et s'il sent qu'il y a des visages renfrognés, il cherche à savoir ce que c'est passé. Pour moi, c'est la plus belle leçon de gestion d'un gouvernement. Parce que le gouvernement, vous êtes d'accord au moins avec moi sur ce point, le gouvernement c'est pour le peuple. On est d'accord au moins sur ça. C'est-à-dire le gouvernement est là pour le peuple.
Et c'est la fin
donc,
de ce débat.
C'est le peuple qui est le seul arbitre.
Fait défaut, fin de ce débat politique.
En joie, le gouvernement doit se dire « je suis sur la bonne voie ».
Merci à toutes et à tous d'avoir pris part à ce rendez-vous. Nous avions parlé de la situation sociopolitique de la République centrafricaine avec la tension de trésorerie que connaît le pays. Nous avons reçu M. Martin Ziguele, président du mouvement de libération du peuple centrafricain MLPC, porte-parole du BRDC et ancien Premier ministre sous le régime d'Ange-Félix Patassé. Merci d'être venu, monsieur.
Merci, merci à vous, merci à M. le ministre et merci à vos auditeurs et aux éditeurs.
Et Maxime Balalou, ministre et secrétaire général du gouvernement, merci d'être venu aussi.
Je vous remercie.
Armand Nguindi, c'est moi, Patara, placé sous la supervision du rédacteur en chef de Radio Ndekiluka, Brice Landrine Dangui. Rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour un nouveau débat. Prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois. Au revoir.